Bonjour à toutes et tous. Bienvenue ici à la Fraternelle. Je vous salue de la part de tout le monde aussi à mon tour. J'espère que vous avez pu être comblés dans vos besoins à travers ce temps de louange. Merci à l'équipe qui a été là, présente et fidèle ce matin pour nous faire vivre ce temps. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon temps et j'en suis reconnaissant. Parce qu'effectivement, s'il y a un élément qu'on peut dire, c'est que la situation, elle est tendue. Il y a de la crispation. Et il y a de la crispation à plusieurs niveaux dans notre société à l'heure actuelle. C'est une réalité. Il y a des chiffres qui font peur, ceux des hospitalisations, ceux des cas nouveaux, ceux de cette pandémie finalement, où il y a peu de lassitude par rapport à ces chiffres, parce qu'ils continuent de nous sonner un peu d'une certaine façon. Et qui nous font un peu peur. Puis aussi, on a d'autres reportages qui sont plus ciblés, qui nous montrent une famille qui est dans l'épreuve parce qu'un de ses proches a subi le Covid et qui est hospitalisé, qui est peut-être même en train de mourir. Des situations qui sont là derrière ces chiffres. Ces chiffres ne sont pas nus, il y a des situations humaines qui nous touchent. Et là, on se sent un peu dépourvu, on se sent un peu dépourvu de ressources. On a besoin d'autre chose. Et il ne nous reste pas grand-chose finalement que la solidarité en appliquant ces fameux gestes barrières, on continue d'y croire. Et puis aussi la prière face à ces situations qui nous dépassent et face à cette maladie pour laquelle nous n'avons aucun traitement. Cette situation tendue, elle est aussi efficace et bien présente sur les aspects économiques. Il y a aussi une crise économique et une préoccupation qui vient grandissant. De quoi l'avenir sera fait? Quelles seront les perspectives pour demain si je suis indépendant, chef d'entreprise ou simplement si mon emploi est en jeu? Est-ce que les affaires vont continuer? Qu'est-ce que je fais dans cette situation à l'aube de donner les budgets pour 2021? Ces incertitudes, elles pèsent sur le moral. Ces incertitudes, elles sont légitimes et ces craintes aussi. Elles sont légitimes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé comme moi un dernier sondage qui a été publié par la RTS, qui nous montre que la situation entre fin mars et cette situation de mi-novembre, au niveau du moral des Suisses, elle est très différente. En mars, il y avait une forme d'élan, de se dire « allez, on se serre les coudes, on va y arriver ». Maintenant, il y a plutôt une forme de crispation et d'abattement qui se reflète dans ce sondage où plus de la moitié des Suisses dit être préoccupés, ce qui n'était jamais arrivé depuis que ces sondages sont faits. Et puis si on prend aussi nos situations communautaires, il faut bien avouer aussi que la situation des églises, elle est aussi tendue, elle est aussi face à cette incertitude, et en même temps, il me semble que nous avons quelque chose de supplémentaire par rapport à la société, et c'est ce que nous essayons de le vivre en étant unis en lui et unis aussi par la technologie. On doit prendre nos marques, on doit retrouver notre rythme à ce niveau-là. Et c'est aussi important que là, on puisse être unis dans cette situation-là. Et dans cette situation, donc ça c'est une petite photo pour vous illustrer la crispation, on se demande ce qu'il veut faire, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui nous reste par exemple de stock. En l'occurrence là c'est des flyers, il a un stock de flyers par rapport à un événement qu'il n'a pas pu organiser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a une forme un peu de détresse qui nous habite. Et souvent, dans ces circonstances, il y a un peu des versets, je dirais, des versets top 50 qui débarquent et puis qui nous font du bien. Et ce n'est pas parce que c'est des versets top 50 qu'ils ne nous font pas du bien, car effectivement, ils nous font du bien. Et ce verset que nous allons méditer en manière particulière ce matin, Myriam vous l'a déjà lu dans son contexte, la fin de l'Épître aux Philippiens, et il nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, ce verset, il est pour nous ce matin. Oui, frères et sœurs, ce verset, nous pouvons le prendre comme nous avons pu prendre ces chants où on disait que Jésus était notre roc, l'appui sur lequel nous allons construire et continuer de construire notre vie, quelles que soient les circonstances. Que ce soit la tempête ou le beau temps, ce roc, il reste le même Et ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, il reste aussi le même. Et je crois que c'est ça qui fait notre différence en tant que croyants, c'est de se dire, on a décidé à un moment donné de dire oui, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, comme il pourvoira à tous tes besoins. Je ne garde pas la richesse de Dieu pour moi, mais je décide de la partager, tout simplement parce que Dieu l'a décidé ainsi. Ce verset est la conclusion de l'épître que Paul adresse à l'église de Philippe. Paul, Myriam l'a dit, est prisonnier, il est donc coupé de relations. Il n'a plus l'occasion d'avoir tous ses besoins qui sont satisfaits. Et il prend le risque là de se confier. Et nous aussi, en tant qu'équipe pastorale, en tant que conseil, on prend le risque de nous confier en Dieu, mais de nous confier aussi en vous, d'une certaine façon, pour vous dire que cette situation, elle nous préoccupe et que nous voulons la vivre avec vous et avec le Seigneur. Oui, nous pouvons parler en toute confiance avec vous, car nous sommes unis à Jésus-Christ. Et de cet état d'esprit, Paul, il ose aussi aborder des questions qui sont peut-être parfois plus délicates. Car clairement, dans cette fin d'épître, il ne parle pas des besoins en général, il parle des besoins financiers. Oui, il parle d'argent. On dit même un spectacle qui parle du fric, de ressources financières. On est au cœur, avec la fin de cet épître, de cette thématique-là. Et je crois qu'on est aussi au cœur de ce qui se passe dans notre société, car beaucoup de nos craintes sont liées à notre situation économique et à nos besoins légitimes à ce niveau-là. Et là aussi, ce verset peut sonner dans nos cœurs, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse, dans l'union à Jésus-Christ. » C'est ce que dit Paul précisément par rapport à ce contexte-là. Et nous sommes aussi, dans ce contexte-là, nous pouvons vraiment nous approprier ces paroles. Ces paroles, elles nous disent trois choses. Elles nous disent la solidarité, elles nous disent la bienveillance et elles nous disent le être ensemble. Ça peut paraître paradoxal, mais la solidarité, la bienveillance et le soin apporté à l'être ensemble va contribuer à faire baisser la tension. L'ouverture vers l'autre permet de relativiser mes besoins à moi. La générosité que nous pouvons exercer aussi au niveau financier dans une période de crise permet de compter sur Dieu et de me rendre compte et d'expérimenter à mon tour sa générosité par rapport à mes besoins. Et la solidarité permet une expérience du vivre ensemble, de la réalité d'une seule et même communauté. Il y a une forme de partage aussi à ce niveau-là, et c'est ce que les Philippiens expérimentent avec Paul en le soutenant aussi sur l'aspect financier. Et ces trois éléments, c'est pas rien. Parce que dans une crise, l'idée de base, c'est de se refermer sur ses propres besoins. C'est de se dire, je suis finalement attentif à ce qui me concerne, éventuellement à mon cercle proche. Cette parole, finalement, où Dieu intervient dans la vie de Paul à travers les Philippiens, nous montre que dans une situation de crise et de besoin, on peut faire baisser la tension en s'ouvrant à l'autre et en partageant. C'est complètement paradoxal de se dire que la tension va baisser parce qu'on s'ouvre vers l'autre. Et pourtant, en expérimentant cela, c'est bien de cela qu'il s'agit. Lors du premier confinement en mars, c'est vrai que j'ai été très touché à titre personnel de voir les feuilles de comptabilité que Françoise Huglet nous a envoyées à fin avril. Car là, j'ai vu un bond dans les offrandes qui était significatif par rapport à tout ce qu'on avait vécu ces dernières années. Et effectivement, là, j'ai senti cette solidarité, cette bienveillance, cet être ensemble qui a aussi passé par le porte-monnaie, qui a aussi passé par la générosité au niveau financier comme une manière d'exprimer « je ne me concentre pas que sur mes besoins, mais parce que je suis conscient de la générosité de Dieu, j'arrive à élargir mes cordages et j'arrive à penser aux autres à travers les besoins qui sont aussi là, toujours là, de notre communauté. » Et ça me fait plaisir, là, dans ce sens-là, de penser qu'à la fin de ce culte, on va avoir un Zoom avec David et Aline, nous envoyer, et que là aussi, on peut exprimer notre soutien par ce biais-là, par le biais financier. C'est un signe que la Bible ne récuse pas C'est un signe que la Bible accepte. Et finalement, l'union à Jésus-Christ donne le sens de cette solidarité. Car cette solidarité, elle ne se vit qu'en Jésus-Christ. Et c'est fondamental de toujours s'en souvenir. Ce n'est pas révolutionnaire, mais on a vite tendance à l'oublier. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. Et c'est notre seule raison d'être solidaire. C'est notre seule raison d'être généreux. Ce n'est pas notre solidarité en tant qu'Église et en tant que croyant, une opinion politique de gauche ou de droite, c'est simplement la réalité de notre foi en Jésus-Christ et de notre désir de le suivre. Au temps des Philippiens, il n'y avait certainement pas encore de parti politique, mais il y avait déjà la solidarité de l'union à Jésus-Christ. Et cette union à Jésus-Christ, je crois, nous donne une sécurité qui nous permettra d'affronter les épreuves qui sont devant nous. Je crois que cette union à Jésus-Christ, pour reprendre les paroles de Paul, est cette force qui me fortifie, il insiste là-dessus, tous les jours, parce que je sais que cette force, elle est partagée aussi avec mes frères et sœurs dans la foi. Et ce n'est pas un vain mot que cette union à Jésus-Christ, elle se fait à plusieurs, elle se fait les uns avec les autres. Et je nous invite, peut-être comme exercice de mémoire, à vous rappeler, comme moi j'ai pu le faire avec ce qui s'est passé lors du premier confinement, dans votre vie ou dans celle de quelqu'un d'autre, des moments où vous avez pu voir en action cette générosité qui s'exerce et qui détermine et qui met en évidence, qui manifeste la vigueur des liens entre nous, frères et sœurs. J'ai exprès choisi l'ensemble du texte pour vous mettre en évidence cette réalité-là de la solidarité, parce qu'il cite Épaphrodite, il cite les Philippiens, et ensuite, dans la salutation finale, il donne la parole finalement à tous les saints, qu'ils soient à Philippe ou ailleurs, comme faisant partie d'un seul et même corps. Et une manière de manifester cette appartenance, c'est ce soutien généreux financier. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que vous avez enfin fait refleurir vos dispositions envers moi. C'est le début de cette longue tirade où Paul parle de ses besoins financiers. Et j'aime bien cette perspective, parce que je crois qu'elle est aussi pour nous en ce début de deuxième confinement. C'est qu'à un moment donné, nous aurons l'occasion de faire refleurir nos liens communautaires comme nous aimons le faire. Entre-temps, on est peut-être dans cette période un peu hivernale, dans tous les sens du terme, mais ne perdons pas de vue cette perspective qu'à un moment donné, nous aurons l'occasion, comme les Philippiens ont eu l'occasion avec Paul, de manifester concrètement nos liens. Et entre-temps, soyons créatifs, comme aussi Myriam nous l'a annoncé, de pouvoir prendre tous les moyens qui sont à notre disposition, technologiques, pour pouvoir dire notre solidarité, notre être ensemble avec celles et ceux qui nous entourent. WhatsApp ne va jamais fonctionner tout seul. Même WhatsApp compte sur vous pour que vous soyez derrière, que vous ayez une pensée de quelqu'un et que vous tapiez votre message. WhatsApp ne va pas envoyer le message à votre place. Ce ne sont que des moyens. Ils sont à notre disposition. La solidarité, elle part de nous. Elle ne part pas des géants technologiques. Et ça, c'est important de se le rappeler. S'ouvrir à Dieu et aux autres permet de dépasser ce stade de la crispation, de l'abattement. Parce qu'on partage une certaine forme de destin, et on le partage pas seulement à l'intérieur de notre communauté, mais on le partage aussi avec nos voisins, avec nos amis, qu'ils soient croyants ou non, avec des membres de notre famille, qu'ils soient croyants ou non. Alors ouvrons-nous à Dieu, ouvrons-nous aux autres, car ainsi nous apaiserons les tensions et nous serons aussi sensibles aux besoins des autres. C'est dans ce sens-là que nous avons mis ce projet sur pied des 30 jours de prière. Déjà une cinquantaine de personnes de notre communauté y participent. Je nous encourage encore et je vous encourage à continuer de vous y joindre en vous inscrivant via le site, parce que c'est une manière de manifester aussi là, publiquement, visiblement, que l'on tire tous à la même corde. Comme je l'ai dit dimanche passé, je sais que vous priez, j'en suis conscient. Et là, c'est simplement une manière de dire, allez, clac, je le montre. Et comme ça, ça va encourager les autres parce qu'on sait qu'on marche dans la même direction. Dans quelques semaines, aussi dans 2 semaines exactement, il y aura un culte de reconnaissance et d'offrande spéciale. On va le maintenir cette année. Et là aussi, ce sera une manière concrète de pouvoir manifester notre solidarité. Et puis finalement, cet élargissement dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas entre les mains des géants de la technologie, mais entre vos mains, à vous, de savoir comment fluidifier nos relations dans un temps de séparation. À l'époque de l'apôtre Paul, ils écrivaient des lettres, ce n'était qu'un moyen. Vous, vous en avez d'autres et j'en aurai aussi d'autres. Et je crois que, à travers ces différentes observations, j'aimerais bien conclure en vous disant « Mon Dieu pourvoira non pas à tous vos désirs, mais à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. » Souvent, en arrière-pensée, on a une confusion entre désir et besoin. Quels sont véritablement mes besoins et que je puisse les reconnaître. Reconnaître ce que Dieu m'offre et en quoi il comble mes besoins, même dans un temps où c'est plus exigeant, même dans un temps où ça semble ne pas aller de soi. Et je crois qu'avec cette interprétation que j'ai essayé de vous transmettre, où nos besoins et Dieu y répond selon sa richesse, dans un sens d'ouverture à l'autre et de générosité, ça nous restreint fondamentalement de prendre ce verset comme étant la solde d'un Dieu sur lequel on actionne la pompe à argent ou à différents besoins qui seraient comblés au niveau matériel. Il n'est pas là pour répondre à tous nos désirs, parce que ça on en aura, puis on est dans une société qui nous les fait gonfler. Il répond à nos besoins. Et je crois que Dieu les connaît encore mieux que nous. Alors plaçons notre confiance en lui, évitons de mal comprendre ce qu'il veut dire par là, et allons avec foi, avec paix, et accompagnés de tous les saints qui sont ici à Nyon et ailleurs pour affronter ces semaines qui sont devant nous. Amen.